When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Minute Papillon.
Bonjour, c'est Anne-Laetitia Béraud. Bienvenue dans Minute Papillon, le podcast de 20 minutes. On retrouve aujourd'hui un épisode de Tout s'explique, notre rendez-vous qui parle d'intimité, de sexualité. Place à Philippe Brenaud, médecin psychiatre, anthropologue, qui publie avec Laetitia Corin l'incroyable histoire du sexe de l'Afrique à l'Asie. Quelle est l'histoire de la sexualité dans les cultures extra-occidentales ? Quelles sont les règles, les pratiques, les tabous dans le Japon du 8e siècle, au Moyen-Orient ou dans l'Inde médiévale ? Que révèlent de leur culture les recueils du Kama Sutra ou encore les Mille et une Nuits ? Aujourd'hui, Philippe Brenaud, médecin psychiatre, anthropologue, directeur des enseignements de sexologie à l'Université de Paris, y publie avec Laetitia Corin l'incroyable histoire du sexe, livre 2 de l'Afrique à l'Asie, aux éditions Les Arènes. Qu'est-ce que cet ouvrage ? C'est un récit graphique où on se balade dans les cultures, les époques. On va découvrir les comportements amoureux, la vision des corps, de la beauté, des pratiques sexuelles qui paraissent plus permissives, voire choquantes, aux yeux de notre société contemporaine occidentale. Philippe Brenaud et Laetitia Corin avaient parlé de l'histoire de la sexualité en Occident dans un premier volume. Ma première question à Philippe Brenaud, c'est donc pourquoi ce deuxième volume qui s'intéresse aux cultures africaines et asiatiques ?
Alors je crois qu'on peut comprendre ce que nous vivons, et là, la sexualité, puisque ça nous importe aujourd'hui, on peut le comprendre qu'avec le recul dans l'histoire d'abord, et le recul dans l'interculturel, c'est-à-dire dans les différentes cultures. De façon à voir ce qui est permanent, il y a des choses qui sont communes à toutes les sociétés, et il y a des choses qui sont communes à presque tous les temps historiques, et puis il y a des choses qui sont, heureusement, qui évoluent, puisqu'on se libère progressivement d'une façon plus ou moins rapide selon les sociétés. Mais donc ce deuxième volume était pour essayer de voir comment on fait l'amour ailleurs et de quelle façon ce qu'on a appelé de l'anthropologie contrastive, ce contraste entre les cultures, nous permettait de mieux comprendre la complexité de la sexualité.
Ce qu'on apprend avec ce livre, c'est que la sexualité n'est pas naturelle, mais culturelle, réglementée par des lois, des coutumes, modelées par l'évolution des mœurs.
La sexualité est tout sauf naturelle. Elle est totalement apprise. Nous avons inventé plusieurs choses, les humains. Au début de l'humanité, les choses nouvelles qui n'existent pas dans le monde animal, c'est le sentiment amoureux. Et ça irrigue toutes les sociétés. C'est l'objet de toutes les cultures, de la littérature. Et la deuxième chose, c'est la pudeur. On ne s'accouple pas en public. Et en général, il y a un cache-sexe, il y a une couverture de la région génitale. C'est-à-dire qu'en inventant la pudeur, on enlève le modèle qui était nécessaire à l'apprentissage. C'est-à-dire, je recopie le modèle. Dernier grand élément de l'apprentissage, c'est la masturbation. On sait aujourd'hui, la science, la sexologie nous montre qu'on va d'abord l'apprendre avec soi et puis on va l'apprendre avec des partenaires. C'est le fait de l'expérience. Eh bien, on sait très bien que sans cet accès à la masturbation, notamment pour les femmes, la sexualité est très réduite. Eh bien, on voit combien quelques sociétés l'ont permise, souvent des sociétés très, très traditionnelles, anciennes, dans l'Océanie, dans l'Afrique ancienne. Et puis, beaucoup de sociétés, et notamment dans les grands monothéismes, vont l'avoir interdite de façon à contraindre les femmes à ne pas accéder facilement à leur sexualité, à la jouissance, car c'est une des choses les plus dangereuses pour les sociétés traditionnelles que la liberté féminine, puisque c'est elles qui sont porteuses potentiellement de l'enfant, alors qu'il ne faut pas les laisser faire tout ce qu'elles voudraient en matière de sexualité.
Partout et tout le temps, la femme est systématiquement dominée, contrainte. C'est peut-être la seule chose qui unit toutes ces cultures.
Qui unit toute cette lecture que je fais de la sexualité à travers les cultures. Eh bien oui, il y a certainement eu un état ancien, parce que si on remonte très loin, il y a 5 millions d'années, nous étions primates très proches de chimpanzés, par exemple. Là, il n'y a pas de domination masculine. C'est les mères on vient de sa mère et on a le rang de sa mère, eh bien, dans les premières sociétés humaines, elles étaient souvent matrilinéaires, c'est-à-dire qu'on était du clan de sa mère. Une part de l'Afrique est toujours matrilinéaire. C'est-à-dire qu'on est l'enfant de sa mère parce que le père, c'est l'incertitude. Et puis, à un certain moment dans ces sociétés, et je le montrerai bien par exemple dans la Chine, où on voit, il y a toutes des contes qui vont avoir changé, des mythologies qui montrent bien qu'à un certain moment, les hommes prennent conscience de la part pour laquelle ils sont dans la naissance de l'enfant, et à ce moment-là, immédiatement, ce qui était matrilinéaire, c'est-à-dire organisé autour de la mère, et pas matriarcal, c'est-à-dire les femmes ne dominaient pas de façon outragée, eh bien, vient un patriarcat violent qui, immédiatement, fait des hommes les dominateurs, fait des femmes leur objet, et très souvent de façon terrible, parce qu'il va y avoir une disproportion dans les comportements.
On peut le situer, ça, à peu près? Ça s'est passé quand?
Non, c'est très difficile à situer. Les légendes ne vont pas donner exactement le... Mais on voit très bien dans la Chine ancienne, par exemple, les choses les plus anciennes datent de 6, 7, 8 000 ans. Mais ce sont des récits qui souvent se rapportent à des temps plus anciens. Donc, on sait qu'il y a eu un temps plus ancien, certainement, où la mère était le centre de l'activité sociétale. Et puis ensuite, on voit un revirement dans les premiers millénaires avant Jésus-Christ, et c'est les hommes qui prennent le pouvoir. Donc, il a sûrement existé un peu partout un état matrilinéaire, c'est-à-dire qu'on tient son rang, on tient sa place dans la société de la mère, mais les hommes, malheureusement, ont pris le pouvoir avec une maladie, moi j'appelle ça la maladie humaine, la domination masculine, on la retrouve dans toutes les sociétés.
Je reviens sur les sociétés anciennes, parfois très anciennes. Vous parlez notamment de la dynastie Zhou, 1046 jusqu'à 250 avant Jésus-Christ. Ces sociétés paraissent plus libres, ou en tout cas, une frange de la société peut avoir une certaine liberté. Par exemple, l'empereur chinois, à cette époque, pouvait être bisexuel. Est-ce qu'on peut dire que les sociétés anciennes étaient forcément plus libres que notre société d'aujourd'hui? Est-ce que ça évolue et pourquoi ça évolue et comment ça évolue?
Il y a ce phénomène dont on parlait auparavant, de la prise de possession par les hommes, ce patriarcat qu'on voit partout depuis quelques millénaires avant Jésus-Christ. Mais ensuite, il va y avoir des quantités de périodes différentes suivant les cultures dans lesquelles elles vont être plus libres, elles vont permettre une sorte de libéralisation. Souvent d'ailleurs, l'homosexualité a pu être acceptée, mais lorsqu'on parle de ça, on parle souvent des sociétés dirigeantes, c'est-à-dire quelques pourcents de la société, parce qu'on n'a pas beaucoup les témoignages du peuple, et la plupart du temps, oui, il allait y avoir des licences, des sociétés. Il y a une période extraordinaire en Chine, par exemple, entre le 8e et le 12e siècle, où toute la littérature est féminine, où il y a beaucoup d'écoute de la part des femmes, qui correspond presque à quelque chose qui existait en France presque à la même époque, même si ça n'a pas de lien. Ça s'appelait les cours d'amour. Mais attention, quand il y a une période de libéralisme comme ça, eh bien, vous voyez arriver un siècle, deux siècles plus tard, quelque chose de terrible. Par exemple, en Chine, au XIIe siècle, arrivent les samouraïs qui vont rester jusqu'au XVIIIe siècle, qui est une société totalement misogyne. Les femmes n'existent plus. Et chaque fois qu'il y a ces hommes très puissants, très dominateurs, la sexualité dont on parle, c'est une sexualité pas avec leur épouse. La plupart du temps, c'est une sexualité avec des courtisanes, avec des prostituées, c'est-à-dire c'est des femmes qui sont faites pour l'amour. Il faut dire que dans le courant occidental, c'était la même chose. On prétendait, vous savez, jusqu'au 19e siècle, on ne fait pas l'amour à sa femme. On le fait, l'amour, ça se fait avec d'autres. Nous avons une idée aujourd'hui d'une sexualité partagée, et c'est très bien que nous puissions vivre un sentiment mêlé de charnel, ce qui a très rarement été le cas. En France, le mariage d'amour, ça a moins d'un siècle. Donc, disons-nous qu'auparavant, les hommes et les femmes étaient en général séparés, et la plupart du temps, la séparation de la femme reproductrice et puis de celle avec qui on faisait l'amour, c'était quelque chose d'assez habituel dans presque toutes les sociétés.
En même temps, avec ce récit graphique donc sur l'histoire de la sexualité dans les cultures, il y a des choses qui paraissent choquantes. Je sais que j'ai un regard qui est orienté. Mais disons que cette pratique donc de cette sexualisation des petites filles qui a pu être dans le passé, moi ça m'a beaucoup choquée.
Il faudrait d'abord que ça devrait faire partie des livres d'histoire, parce que la chose qui est compliquée, c'est qu'on va projeter ce qu'on vit aujourd'hui en regardant des choses anciennes. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, c'est ce qu'on appelle le mariage précoce. Le mariage précoce était une habitude. Par exemple, Mahomet va prendre Aïcha pour épouse, elle a 6 ans, il ne consommera l'acte qu'à l'âge de 9 ans. Pour nous, ça nous paraît bizarre aujourd'hui, c'était normal à l'époque. Il va y avoir aujourd'hui, nous sommes dans une société très libre dans laquelle une seule chose est interdite, je vais dire. C'est l'intrusion de la sexualité adulte dans celle des enfants. Mais la plupart du temps, dans ces mariages précoces, dans énormément de sociétés, c'est tout simplement que le mariage, comme en France jusqu'au XVIIIe siècle par exemple, c'était le fait des parents. Et plus on mariait tôt une fille, moins on avait de chances qu'elle se rebelle lors du mariage. Si vous la mariez à 8 à 12 ans, effectivement, il y aura sûrement une sorte d'acceptation qu'il n'y aura pas quelques années plus tard. Alors c'est important de pouvoir regarder l'histoire, pas directement avec nos yeux d'aujourd'hui, parce qu'autrement, à ce moment-là, on fait des procès partout. La liberté qu'on a dans les couples aujourd'hui a moins de 50 ans. Nos grands-parents, arrière-grands-parents ne vivaient pas du tout la même chose.
Ma dernière question, c'est est-ce qu'il y aura un livre 3 à l'incroyable histoire du sexe ?
Il n'y aura pas un livre 3. Il y aura une nouvelle édition qui est prévue exactement dans un an. La sexualité de l'Inde, du Moyen-Orient, des mille et une nuits, par exemple.
Il y a beaucoup plus riche, avec de la nécrophilie et de la zoophilie.
Et encore, je n'ai mis que des choses possibles. Il y a énormément de choses qu'on ne peut même pas mettre tellement elles sont insupportables. C'est-à-dire que c'est vraiment très compliqué. Ensuite, il y a effectivement l'Afrique, la Chine et le Japon. Et il y aura deux volumes supplémentaires qui sont l'Amérique et l'Océanie, qui vont compléter ce volume dans un an. Ça sera une édition augmentée parce que là, on était un petit peu court dans le temps. Mais effectivement, il y aura un troisième ou du moins un volume augmenté. Et l'incroyable histoire du sexe vous permet simplement de relativiser les choses et de pouvoir peut-être comprendre ce que nous sommes en train de vivre. Parce qu'il y a beaucoup d'exemples de la sensualité et du respect d'un sexe à l'autre qui sont donnés par toutes ces cultures. On a beaucoup à apprendre du Japon et de sa sensualité, des tantras. Il faut s'égayer, la sexualité doit être gaie.
Merci à Philippe Bruneau pour cet entretien. Minute Papillon, c'est le podcast d'actualité de 20 minutes. Vous pouvez vous abonner gratuitement sur toutes les plateformes et les applis d'écoute en ligne. Par exemple, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Acast, Podcast Addict et bien d'autres encore. Pour l'actualité et notamment le suivi de l'élection aux États-Unis, c'est sur 20minutes.fr. On se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode ? Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel.20minutes.fr. Et merci de nous avoir écoutés.